RCF.
Vous êtes sur RCF le 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 12 mars, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau magazine régional avec un sommaire très court parce qu'on a beaucoup de monde qui nous attend, notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Oui, Jean-Pierre. Notamment, on a la chance aujourd'hui d'avoir en direct Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, qu'on va retrouver dans une poignée de secondes.
Nous serons également avec Jean-François Boulanger avec nous en studio. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Où ira-t-on aujourd'hui avec vous dans ce nouveau numéro de Mémoire chrétienne ?
En Herzégovine.
Très bien. Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je
voulais...
Non, c'est-à-dire que vous allez évoquer Medjugorje.
Absolument.
Aussi. Bien sûr, on y revient.
Dans la deuxième partie d'émission, on ira faire un tour du côté d'Orbel-Abbaye à la rencontre du nouveau maire Alexandre Piat. On parlera également mission patrimoine avec Pierre Possémé et Bernard Deloriston. Et puis on présentera l'association d'art vivant et son deuxième salon petit format duo avec donc cette association chalonnaise art vivant. Le temps de saluer notre stagiaire à la rédaction, Marion, bonsoir.
Bonsoir à tous.
On vous retrouvera à l'intérieur du journal régional de 18h30 avec la page Météo 18h12.
Et tout de suite, puisque nous sommes en direct dans ce magazine, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims bien sûr, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. On sait que le président de la République a fait publier dans Libération et La Croix dimanche soir une interview pour ouvrir le débat sur la fin de vie afin de présenter en avril au Conseil des ministres un projet de loi sur une aide à mourir. Il évoque une loi de fraternité ouvrant la possibilité de demander cette aide à mourir, reprenant des concepts non cités, le suicide assisté ou l'euthanasie. Alors justement, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, à la lecture de cette interview du président de la République, quelle est votre première réaction? Les évêques de France ont fait publier, et vous-même, un communiqué dès hier.
Ma première réaction, ça a été une déception, je dois le dire, que j'ai essayé d'exprimer dans la réponse que j'ai donnée aux questions du journal La Croix. Une déception parce que jusqu'à maintenant, dans la présentation de ce sujet, tant le président de la République que la ministre de la Santé mettaient toujours en avant les soins palliatifs avec un engagement très fort, une promesse en tout cas d'un engagement très fort. Et là, le président de la République commence par détailler tout un projet très, très ficelé, à vrai dire, sur ouvrant ce qu'il appelle une aide active, une aide à mourir. Et en revanche, sur les soins palliatifs, ils viennent en deuxième position. Et honnêtement, pour dire des choses qu'on a déjà entendues, ça fait plus de 20 ans que la France devrait être un pays pionnier en matière de soins palliatifs. Nous ne sommes pas du tout, il y a beaucoup de départements dans lesquels il n'y en a pas, et même ceux dans lesquels il y en a ont vu certaines unités fermer ou perdre de leurs moyens ces dernières années. Donc on est très loin de l'ambition annoncée et réclamée d'ailleurs, dès le point de départ par le Conseil consultatif national d'éthique.
Alors, Monseigneur, bien sûr, vous avez même parlé assez avec rudesse, d'une certaine façon, de mensonge, en disant on ne peut pas appeler loi de fraternité un texte qui peut ouvrir sur le suicide assisté et en même temps sur l'euthanasie.
Je ne crois pas d'avoir parlé de mensonge, je parlais de tromperie. La tromperie, c'est que... Voilà, le président de la République habilement utilise le terme de loi de fraternité. Je dis habilement parce que je réponds à une question qui m'était posée sur savoir si nous, les cultes, nous avions été écoutés, entendus. Alors, de fait, on a été écoutés, et très bien écoutés, je tiens à le dire, à plusieurs reprises, avec attention par le président de la République et d'autres interlocuteurs qui nous a fait rencontrer. Mais nous avions, notamment nous catholiques, mais pas seulement, insisté sur la nécessité de la fraternité. La fraternité, nous la voyons avant tout dans la mise en place des soins palliatifs. Alors, approprier ce terme de fraternité pour parler de loi de fraternité, pour cette ouverture d'une possibilité de venir en aide à quelqu'un, je dis que c'est une tromperie. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, empêcher quelqu'un, retenir quelqu'un qui veut se suicider, ça va saluer comme un acte de grande fraternité. Et puis bientôt, alors, la fraternité, ça consistera soit à laisser cette personne faire toute seule, soit même à lui prêter moins forte. où va-t-on s'arrêter? Où est la, il y a une contradiction et je ne vois pas quelles précautions permettront de s'arrêter sur ce chemin.
Alors, il y a aussi des questions que bon nombre de personnes se posent. Alors, il y a bien sûr énormément de cas particuliers, mais ne risque-t-on pas, par exemple, pour des personnes seules, très âgées, qui ne souffrent d'ailleurs pas forcément, mais qui sont dans des EHPAD et qui à qui on va donner des idées, puisque elles peuvent se dire, on nous propose cette solution, pourquoi pas, je ne sers plus à rien, je suis isolé. Est-ce que ce n'est pas un risque qu'il y ait des dérapages sur la conception elle-même?
Vous exprimez fortement ce que, effectivement, une très grande inquiétude qui n'est pas un rêve, hein. Il suffit de voir ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe au Canada. Comment est-ce que des personnes fragilisées, comment est-ce que des personnes seules ou qui auraient des raisons de se considérer comme seules, des personnes dont le diagnostic vital est effectivement engagé, qui sont incurables, comment pourront-elles ne pas penser, ne pas subir une pression et ne pas penser que ce serait une solution honorable pour libérer la société d'un poids? Et comment notre système, tout notre système hospitalier, ne va-t-il pas se fléchir en quelque sorte, ou s'infléchir dans cette direction? Même si on affirme que jamais personne ne proposera cet acte à quiconque, comment empêcher que cela vienne? Alors que nous avons aujourd'hui la possibilité, encore une fois, de développer les soins palliatifs, de mettre en place une culture de l'accompagnement d'aider le point de départ des formations dans les métiers médico-sociaux, et que il y a besoin aussi, c'est vrai, d'un engagement de toute la société, de nous tous. Nous avons la fraternité, ça consiste à ce que nous disions à chaque personne qu'elle compte pour nous et qu'elle compte quel que soit son état.
D'ailleurs, c'est un point important à noter, c'est que les associations de soignants, enfin certaines d'entre elles en tout cas, manifestent une forme de consternation et de colère. Ça veut dire que même le monde médical avance quand même très très prudemment.
C'est pas qu'il avance prudemment, je crois qu'il y a une grande partie du corps médical qui ne veut pas, qui estime que ce projet est dangereux, ils le disent depuis longtemps. Et certains ont exprimé avec beaucoup de force, hein, certains qui en représentent beaucoup d'autres, ont exprimé avec beaucoup de force leur déception devant ce projet qui fait encore peser sur eux un très grand poids. Il y aura toujours une différence infinie entre laisser quelqu'un mourir tout en l'accompagnant et puis faire mourir quelqu'un. Et puis, il y aura toujours une différence infinie entre soigner et puis faire mourir. Et ce projet de loi, tel qu'il est présenté, tel qu'il est écrit, estompe cette différence. Et ça inquiète beaucoup, et je le comprends, beaucoup de soignants de tout genre. Et puis, quelle confiance nous, citoyens, nous-mêmes, pourrons-nous faire à notre système de santé?
Vous avez résumé une phrase, je ne sais pas si je la cite correctement, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour penser qu'une société se grandit en refusant de donner la mort et en mobilisant ses forces pour accompagner chacun jusqu'au bout.
Quelqu'un qui l'a dit fortement, c'est Robert Badinter, hein, auquel on a rendu hommage au moment de sa mort, pour son combat contre la peine de mort. Mais Robert Badinter, interrogé par la commission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti, qui est la loi précédente sur ce sujet de la fin de vie, avait dit sa farouche opposition à l'aide active à mourir. Et puis, il me semble que voilà, nous entendions la position d'un homme qui n'est pas un chrétien et qui était tout à fait capable qui voyait cela avec beaucoup de lucidité et son grand sens de la société et du rôle de l'État.
Alors vous invitez d'ailleurs les parlementaires à réaliser le poids que le vote d'une telle disposition fera peser sur nos concitoyens proches de la fin de vie. Là aussi c'est important, au moment du vote à l'Assemblée.
Oui, ça revient à ce que nous disions. Hein. Si jamais une telle disposition était votée, quel poids sur nos concitoyens les plus fragiles? Quel poids un jour sur chacun de nous quand nous serons dans cette situation? Voilà, tout ça s'appuie sur des concepts qui ne sont pas si précis que ça. Par exemple, le président de la République fait fond sur des souffrances réfractaires c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à soulager. Et la médecine évolue et un fort engagement dans la recherche serait, sur ce sujet serait aussi une autre manière de faire face.
Merci en tout cas, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. Vous avez rappelé également le rôle de l'Église, rappelé à l'humanité ce qu'elle est, ce qu'elle peut devenir, ce qu'elle peut faire mieux encore. Merci, merci Monseigneur, et à très bientôt sur RCF.
Merci à tous.
Merci Monseigneur, au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Le 18-19 sur RCF.
Et désormais, on passe à un nouveau numéro de Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger, 18h21. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez à Médiogorgé, le théâtre des apparitions. Nous reprenons la série La Mémoire en marchant qui nous a emmenés, entre autres, à Lourdes en évoquant un lieu de pèlerinage récent. Il se développe après 1981 et controversé. Les apparitions auxquelles il est lié font l'objet de débats. N'est-ce donc pas un peu tôt pour en parler dans l'émission Mémoire chrétienne ? C'est vrai, Jean-François Boulanger, que généralement, les historiens nous habituent à prendre du recul sur
voilà,
les faits.
Voilà, ils prennent du recul, mais justement, ils ne sont pas les seuls, et c'est ce qu'on va voir. Les apparitions, effectivement, sont très controversées. Je n'entrerai pas dans le débat sur leur authenticité. Nous nous contenterons ici de faire de l'histoire, c'est-à-dire d'évoquer simplement les faits qui sont accessibles à la perception sensorielle de chacun, tels qu'ils ont été documentés par des sources, contrôlés et recoupés. L'événement est récent, effectivement, à l'échelle de l'histoire de l'Église catholique, mais l'impact de ces apparitions, telles qu'elles ont été perçues et telles qu'elles ont pu susciter la venue de pèlerins, ne peut pas se comprendre si on ne les place pas dans une double perspective mémorielle, celle des apparitions de la Vierge qui ont commencé avant Médougorgé et celle de l'Herzégovine croate.
Quand vous parlez de la mémoire des apparitions de la Vierge, vous faites sans doute allusion à Lourdes.
Oui, effectivement, et on en a parlé dans d'autres émissions, donc on ne développera pas pour l'instant. Il faut simplement se rappeler, pour le moment, du fait que Lourdes est une référence dont on ne peut pas faire abstraction quand on parle d'apparition de la Vierge Marie, et que son impact a été tel qu'on a installé un peu partout dans le monde catholique des grottes, des reproductions de la grotte de Lourdes, caractérisée par la présence en leur sein d'une statue de la Vierge telle qu'elle est apparue à Bernadette, selon les descriptions de cette dernière. Et justement, il y en a plusieurs en Croatie, dont une dans un sanctuaire consacré à Notre-Dame de Lourdes, qui est celui de Veprić, à Makarska, sur la côte dalmate. Il a été fondé en 1908 par l'évêque de Split, Juraj Karić, qui, après sa mort, a été enterré dans le sanctuaire. Et donc, il y a des pèlerinages qui se passent dans ce lieu, donc le jour de l'Assomption, bien sûr, et le jour de la Nativité de Marie. Et justement, ce sanctuaire n'est pas éloigné de Médougorgé, il est à 70 km.
Il faut donc nous pencher sur l'environnement géographique de Médougorgé, l'Herzégovine et la Croatie, si j'ai bien tout compris, Jean-François.
Voilà. Alors effectivement, pour comprendre tout cela, il faut se rapporter à l'époque où tout cela est apparu, c'est-à-dire en 1981. Nous sommes encore dans l'ex-Yougoslavie, une Yougoslavie qui est née après la Première Guerre mondiale, le 1er novembre 1918, un État qui prétendait unir dans une seule structure politique tous les Slaves du Sud, les Yougoslaves, ça veut dire Slaves du Sud, Yougoslaves. Mais en fait, le premier nom de cet État renvoie à une réalité infiniment plus complexe puisqu'il naît sous le nom de Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. C'est pas simple comme nom. Et c'est le reflet, effectivement, d'une complexité importante. Et le monarque qui règne sur ce royaume, c'est en fait l'ancien roi de Serbie avant 1914.
Les Serbes et les Croates parlent en théorie la même langue, le serbo-croate, Jean-François Boulanger.
Absolument.
Quelle est donc la différence entre les Serbes et les Croates ?
Alors, effectivement, les Serbes et les Croates parlent la même langue. En tout cas, c'est pas faux, on va dire, parce qu'aujourd'hui, ça se différencie de plus en plus.
Il y a des dialectes ?
Il y a des dialectes, effectivement. Il y en avait toujours. Il y a des variantes dialectales. Et le fondateur du mouvement illyrien, qui est à l'origine de l'idée de Yougoslavie, qui s'appelle Ljudevit Gaj, qui était d'ailleurs un linguiste, s'était efforcé, au XIXe siècle, de gommer les variantes dialectales pour faire apparaître une langue unique en partant de l'idée que tous les Slaves du Sud, de Croatie, de Dalmatie, de Serbie, du Monténégro, de Bosnie, d'Herzégovine, etc., forment un même peuple, donc le peuple des Yougoslaves, puisqu'ils parlent la même langue. Mais cette volonté unificatrice s'est très rapidement heurté à la persistance de différences parmi ces Slaves du Sud, notamment à celles qui tiennent à la religion. Les Serbes sont des orthodoxes, évangélisés à partir de Byzance, ils utilisent l'alphabet cyrillique. Les Croates, évangélisés à partir de Rome, sont catholiques et ils utilisent l'alphabet latin. Et ce sont en fait les Serbes qui ont dominé la Yougoslavie, d'où l'apparition entre les deux guerres d'un mouvement nationaliste croate qu'on appelle les Ustaši, qui lutta contre la monarchie serbe et pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, s'allia aux Allemands et aux Italiens quand ces derniers envahirent le pays et le démantelèrent. La Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie s'est doublée en fait d'une véritable guerre civile très meurtrière avec des massacres de part et d'autre qui opposaient donc les Croates Ustaši aux nationalistes serbes et aussi aux communistes qui prétendaient dépasser les antagonismes nationaux. Tito était croate, mais certainement pas Ustaši. Et ce sont les communistes avec Tito qui vont l'emporter et ressusciter la Yougoslavie sous une forme fédérative. À partir de ce moment, la Yougoslavie est composée de 6 républiques en théorie égales au sein du régime yougoslave, parmi elles la République de Croatie, la République de Serbie et la République de Bosnie-Herzégovine où on trouve des Serbes, des Croates et des musulmans, autrement dit des Slaves convertis à l'islam, pendant la période où cette région appartenait à l'Empire ottoman. Et donc, selon Tito, je le cite, « La Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. » C'est évidemment le parti communiste qui fait à ses yeux l'unité. Mais les Croates, pendant toute cette période communiste, demeurent suspects de nationalistes en raison de l'épisode Ustaši que j'ai évoqué précédemment.
Après ces explications qui différencient les Croates et les Serbes, dans quelle partie de la Yougoslavie se trouve donc Medjugorje, que l'on évoquait au début
voilà,
de cette émission?
Voilà, Medjugorje, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est dans le sud-est de la Bosnie, dans cette région qu'on appelle l'Herzégovine, où les catholiques croates sont nombreux, majoritaires même si la ville principale de cette partie, qui s'appelle Mostar, on en a beaucoup parlé pendant la guerre civile, comprend aussi aujourd'hui des quartiers musulmans. Elle est littéralement coupée en deux entre les quartiers musulmans et les quartiers croates catholiques. Alors Medjugorje fait partie d'un village qui s'appelle Bijakovići. Nous sommes dans ce qu'on appelle un polier. Qu'est-ce que c'est qu'un polier? C'est un terme d'ailleurs d'origine croate qu'on utilise en géographie physique, par exemple si on fait des études de géographie. C'est en fait une dépression formée par dans les sols calcaires, karstiques, qui résulte de la décomposition du calcaire, donc qui est assez fertile, et qui sont occupés du même coup par les terres arables. C'est les seules terres cultivées du coin. Et là se concentrent les cultures, alors que les autres terrains qui sont calcaires, qui sont comparables aux causses, pour prendre un exemple français, ne sont pas cultivés, sont consacrés à l'élevage du mouton. Et donc le hameau de Medjugorje se trouve à la périphérie du polier, à la limite entre les terres arables et le bord du polier. Elles sont recouvertes d'un maquis très dense, de pirail et d'épineux. On peut accéder d'ailleurs du village vers ce maquis à partir d'un sentier très raide et qui devient rapidement un tracé très fin laissé par le pas des habitués. C'est là qu'on va emmener les brebis. On y trouve aussi des ruines, d'anciennes tombes, des serpents venimeux y logent. La terre est sèche, mais de forts orages peuvent y allumer des incendies. Vous voyez, le tableau est charmant. Et d'ailleurs, on dit que la zone est habitée par des esprits. On y chasse, et aussi on y a réglé souvent des comptes de vendetta sanglantes. Et donc, cette région, pour les habitants du village central, Bijakovići, cette région et le hameau de Medjugorje sont considérés un peu comme une zone marginale, à demi sauvage, tant en ce qui concerne le paysage que sa population, qui est quand même un peu rude.
Justement, pour conclure sur la population, au moins aujourd'hui, Jean-François, comment elle vit, cette population?
Alors, le pays est très pauvre, vous l'aurez compris, et une grande partie des hommes en âge de travailler, donc en 1980, au moment des apparitions, sont en fait partis travailler ailleurs, soit dans des villes voisines, Mostar ou Sarajevo, soit carrément en Allemagne. Il y a beaucoup de travailleurs immigrés yougoslaves en Allemagne, ce sont souvent des Croates. Donc les villages sont, et Medjugorje en particulier, sont peuplés de vieillards, de femmes, d'enfants et de jeunes gens qui sont parfois scolarisés eux-mêmes dans les villes voisines. Et justement, ce sont certains de ces enfants, de ces jeunes gens, ou jeunes filles plus exactement, qui, un soir de la fin du mois de mai, de juin 1981, vont revenir de ces collines en disant qu'ils ont vu la Vierge. Qui sont ces enfants? Quel accueil leur feront les adultes quand ils reviendront de la colline? La réponse au prochain épisode.
Gros teasing, merci Jean-François Boulanger. Et nous, il est 18h30, c'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce mardi 12 mars, des contrôles de poids lourds se sont déroulés hier sur les 18 départements du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. Zoom dans la Marne où en 2023, les poids lourds interviennent dans 21% des accidents mortels. Quoi de neuf, docteur, sera joué au théâtre du Chemin Vert de Reims en fin de semaine. Présentation de la pièce.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
506 morts dans des accidents routiers impliquant des poids lourds ont été recensés l'année dernière dans la zone Est, soit 32 de plus que l'année précédente. C'est pourquoi une opération zonale poids lourd s'est déroulée hier matin sur l'ensemble des 18 départements des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. David Berthoux, sous-préfet de la Marne et directeur de cabinet, nous explique l'importance de l'opération.
Il ne s'agit pas de stigmatiser les poids lourds et de considérer que ce sont eux qui sont les seuls responsables des accidents routiers. Simplement, on concentre aujourd'hui nos forces sur cette cible-là, sur ce public-là. Alors les poids lourds, ça représente dans la Marne, l'année dernière, 8 morts sur les 40 que nous avons eu à déplorer sur nos routes. Un pourcentage important de la mortalité routière, avec des sujets, des causes de responsabilité qui tiennent à plusieurs facteurs. On évoquait l'inattention, c'est effectivement la première cause. On a aussi l'alcool et le respect des distances de sécurité.
En 2023, les poids lourds interviennent dans 21% des accidents mortels de l'ensemble du département de la Marne. Pour David Berthoux, on revient sur un bilan d'avant-Covid.
Vous savez qu'avec le Covid, on a eu une baisse de la mortalité. Et là, on revient à des niveaux d'avant-Covid, ce qui doit évidemment nous conduire à renforcer toute la politique de sécurité routière. D'ailleurs, le préfet de la Marne, cette année, souhaite avoir une politique particulièrement forte sur ce sujet. Pour le dire clairement, on a eu un rebond du nombre de morts l'année dernière sur nos routes. Donc là, il est vraiment primordial qu'on prenne tous conscience de l'importance du sujet. C'est vrai que la sécurité routière, on en entend beaucoup parler. Je pense que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens considèrent que le sujet est assez lointain et puis revient souvent un peu comme une rengaine, c'est-à-dire qu'on y prête de moins en moins attention. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de se rendre compte que non, c'est un sujet qui peut nous toucher directement très rapidement et surtout qui reste un sujet d'actualité.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La préfecture de la Marne a pour projet en 2024 de réaliser plusieurs opérations de communication autour de la sécurité routière. On vous en parlait hier, il est encore temps de s'inscrire dans la foulée de son assemblée générale. L'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne organise un spectacle de théâtre, La Rumination des Agriculteurs, ce jeudi 14 mars à 14h30 à l'espace culturel Les Tourelles à Vouziers. Entrée 5 euros, infos et réservations auprès de la présidente de l'association Odine Mouchet, 06 41 98 80 81. On rappelle l'entrée, c'est 5 euros, 06 41 98 80 81. Il est encore temps aussi de penser à passer une soirée à rigoler jeudi et vendredi soir à 19h30 au théâtre du Chemin Vert à Reims. En 2017, le docteur Jean-François Hutin publie une pièce de théâtre, La Grande Histoire de la Médecine, portée par ses amis et l'association Au Fil de l'Histoire. 7 ans après, la pièce s'appelle désormais Quoi de neuf, docteur, et sera jouée sur les planches dans les prochains jours. Jean-François Hutin revient sur l'origine de cette pièce.
Je m'intéresse à l'histoire de la médecine depuis un certain temps. J'ai écrit un livre sur l'histoire de l'examen clinique, donc qui reprend effectivement toute l'histoire de la médecine depuis les temps les plus anciens. Et je me suis amusé un jour en me disant, tiens, ce serait assez original d'écrire sous une autre forme, et d'où l'idée de la pièce de théâtre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, bon, j'avais déjà un certain nombre de notions, mais j'ai écrit ça en quasiment un week-end.
Tout au long de la pièce, le spectateur suit une évolution de la pensée médicale à partir de l'étude d'un même cas clinique depuis la préhistoire jusqu'à nos jours et même au-delà.
Je prends une pathologie au départ et à partir de cette pathologie, un certain nombre de médecins vont se pencher au chevet de ce pauvre malade et vont montrer un petit peu au public l'évolution de la pensée médicale. Alors à travers effectivement des personnages illustres comme Hippocrate, Galien, Ambroise Paré, mais parfois des médecins moins connus où j'essaye de montrer certaines évolutions de la médecine qui ne sont pas forcément connues du grand public. Notamment, par exemple, la lutte sur le plan de la physiologie entre les tenants du mécanisme et les tenants de la chimie, vous voyez, des choses comme ça.
Pour ce qui est de la mise en scène, Agnès Janssen et d'autres membres de l'association Au fil de l'histoire y ont largement contribué.
On est très contents de porter bien ce projet de pièce de théâtre qui nous paraît une très très belle chose, une très belle réalisation avec des acteurs qui se donnent beaucoup pour faire quelque chose de très beau. Le tout était de mettre en lien, en fait, je pense qu'on a soulagé beaucoup les comédiens et Jean-François en étant au milieu entre le Théâtre du Chemin Vert et la compagnie, voilà.
Des propos recueillis par Jean-Pierre Benoît pour RCF Reims-Ardennes. Rendez-vous jeudi et vendredi 19h30 au Théâtre du Chemin Vert de Reims pour découvrir la pièce « Quoi de neuf, docteur ?» À 18h36, avant de refermer ce journal, place à la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardennes pour ce mercredi ?
Eh bien, ça ne sera pas demain, mercredi 13 mars, que nous verrons le soleil. Malheureusement, le temps restera monotone sur tout le territoire, avec des gros nuages gris. Cependant, les températures augmentent avec 10 degrés dans la matinée et 14 dans l'après-midi, des températures plus printanières que ces derniers jours. Nous aurons le droit à quelques éclaircies dans la soirée, mais les températures ne dépasseront pas les 10 degrés. Mais demain, nous fêterons les Rodrigues, ne l'oubliez pas.
On va tâcher de ne pas l'oublier. Merci pour toutes ces informations. Marion, on vous retrouve demain pour de nouvelles tendances météo et de nouvelles saints à souhaiter. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Suite à la démission du maire d'Orbey-l'Abbaye, Denis Casters, en mars 2023, Alexandre Piat est devenu quelques semaines après le nouvel édile de la commune située dans le sud-ouest marnais. Bientôt un an après son élection, Christian Lanciot de RCF Cœur de Champagne est parti à sa rencontre.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Christian.
Présentez-vous un petit peu.
Moi j'ai 45 ans, je suis donc né en 1978 et j'ai quasiment toujours vécu à Orbey-l'Abbaye. J'ai fait des études de philosophie à Reims, d'abord en classe préparatoire et puis ensuite à Paris. Et je suis professeur agrégé de lettres et de philosophie. J'enseigne donc ces deux disciplines au lycée Notre-Dame-Saint-Victor à Épernay et également comme chargé de TD à l'université de Reims.
Alors dites-moi, vous êtes orbassien bien sûr, vous habitez toujours à Orbey.
Oui, j'habite toujours à Orbey et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à envisager l'idée de vivre ailleurs qu'à Orbey. Même quand j'étais étudiant, c'était toujours avec un grand plaisir que je revenais les week-ends à la maison. D'ailleurs, mon épouse aussi était tombée sous le charme du village. C'est vrai que c'est un village très attachant, d'une part par ses habitants, mais aussi le cadre de vie qui est vraiment très très beau, que ce soit bien sûr avec l'abbatiale et également avec la nature qui est omniprésente parce qu'on a la chance d'être vraiment dans un écrin de verdure. En quelques minutes, vous retrouvez dans des promenades extraordinaires, dans des bois avec des sources qui jaillissent. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Comment vous êtes arrivé à être maire en 2023 ?
Alors en fait, c'est une aventure qui a commencé avec Denis Casters, donc qui était tête de liste à l'élection de 2020. Nous avons effectivement construit cette liste autour d'un item, unissons nos différences. Et c'est vrai qu'on a eu la chance dans cette liste d'avoir des personnes avec des compétences, je dirais, très variées et très complémentaires, que ce soit des médecins, des chirurgiens, des personnes de l'entreprise, comme l'était Denis d'ailleurs, des personnes de l'enseignement comme moi, et bien d'autres, qui ont permis de proposer aux habitants une vision, je dirais, autre pour le village. C'est une vision qui a été retenue. L'élection a été, je dirais, un petit peu compliquée par la Covid, hein, puisque le deuxième tour a été différé. Mais nous avons été élus avec une large majorité de conseillers, puisque nous étions 14 conseillers de la même liste sur 15. Malheureusement, la personne de la liste adverse, si on peut dire, qui avait été élue au premier tour, n'a pas souhaité rester dans l'équipe. Ça a été son choix, mais dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien passées.
Là, on est en 2020. Là,
on est en 2020. Donc moi, j'ai accepté la responsabilité de premier adjoint. Je l'ai toujours vu comme, un moyen d'épauler le maire. Et puis, en 2023...
À mi-mandat, on peut dire.
À mi-mandat, on en avait déjà parlé un an avant. Denis a eu des soucis, de santé et familiaux aussi, qui lui ont donné envie de prendre du recul. On en avait beaucoup parlé, sachant que moi, j'étais engagé aussi à l'université à Reims avec pas mal de cours. Donc la période n'était pas forcément idéale, mais d'un commun accord et dans une transition tout à fait satisfaisante, il a décidé de remettre sa démission. Il m'a d'ailleurs posé la question de savoir si je souhaitais qu'il démissionne complètement de l'équipe. Je n'ai pas jugé utile qu'il le fasse et donc il est resté conseiller. Ça n'a pas du tout posé de problème, il m'a fait confiance. Et je dirais que la première période, ça a été l'intérim, j'étais maire par intérim. Et puis ensuite, ça m'a permis effectivement de proposer ma candidature. Il n'y a pas eu d'autres candidats. L'équipe m'a fait confiance, j'ai été élu à la majorité, puisque moi je n'ai pas voté pour moi-même évidemment. Ça a été tout de suite pour moi le sentiment d'une responsabilité importante et la nécessité de continuer en fait ce qui avait été engagé et de mener au mieux le mandat qui m'était confié pour les 3 ans à venir.
Voilà. Donc comme vous étiez premier adjoint, maintenant vous allez continuer sur la lancée, quoi.
C'est ça. Alors au niveau des projets, il y a un projet qui avait fait un petit peu débat et polémique dans le village, c'est la maison art et patrimoine, mais qui malgré tout a obtenu les fonds FEDER, donc avec une subvention très importante de plus de 250 000 euros. Alors c'est une maison qui est située sur la place et qui évidemment est un endroit stratégique. Nous ne pouvions pas la détruire. Elle est en réhabilitation, donc ça c'est un gros projet qui devrait être terminé fin juin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est une commune d'un peu plus de 500 habitants. Il y a un budget qui n'est pas extensible, donc il faut faire des arbitrages. Mais on a quand même déjà la satisfaction de voir que les choses avancent dans le bon sens.
Merci Alexandre, et au revoir à toutes et à tous.
Effectivement, grand merci Alexandre Pia, merci Christian Lanciot, vous étiez ensemble depuis Orbey-l'Abbaye dans le sud-ouest marnais. On fait un petit peu de géographie, c'est ça aussi le 18-19 en Champagne-Ardennes.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h42, Jean-Pierre Benoît nous rejoint de nouveau. Deux invités en studio, Pierre Possémé, Bernard Deloriston, tous deux de la Fondation du Patrimoine.
Bonjour à vous deux, Pierre Possémé et Bernard Deloriston.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là avec nous, Pierre Possémé, d'abord pour nous annoncer de bonnes nouvelles, parce que 2023, ça a été un bon cru. On pourrait même dire dans notre région que ce fut un millésime.
Oui, c'est un très bon cru, puisque les dons ont augmenté sur notre région de plus de 40%, et dans la Marne et Ardennes, c'est plutôt plus de 50%. Donc on peut dire que c'est une bonne année pour les dons. Ça veut dire merci pour la générosité de nos concitoyens Marne-Ardennes, puisque des dons, c'est des projets, c'est de l'emploi, et c'est aussi des monuments sauvés. Quand on sait les difficultés qu'on a à sauver nos monuments, on sait que nos maires ont beaucoup de courage quand ils ont des monuments. C'est pas facile. Vu les budgets souvent qu'ils ont, et puis ils ont d'autres priorités, donc on apporte une aide, puisque plus de 10% de leur budget de travaux est compensé par des dons de nos concitoyens, que ce soit des habitants comme des entreprises. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et vous pouvez évaluer l'intérêt que portent les habitants de la région Champagne-Ardennes pour leur propre patrimoine. Vous sentez qu'il y a une certaine volonté d'aider à réhabiliter, à refaire, à restaurer ce patrimoine?
Je pense que le patrimoine n'a jamais été aussi bien vu qu'aujourd'hui. Je pense que les gens, dans des positions un peu difficiles aujourd'hui, ont besoin de se raccrocher à des valeurs, et le patrimoine est une des valeurs qui ne pose pas de problème politique. Le patrimoine, il appartient à tout le monde. N'importe quelle idée que nous avons politique, on aime son patrimoine, et je crois que c'est ça qui est important. C'est ce qui fait sûrement la valeur qu'ont les gens à nous aider pour sauver ce patrimoine qui fait l'histoire de la France.
On vous retrouve dans un instant, Pierre Possémé, Bernard Deloriston, évidemment, on regarde 2024. Alors, il y a de beaux projets, il y a quand même plusieurs dizaines de projets dans les Ardennes et la Marne et dans la région en général.
Oui, même une soixantaine pour être assez précis. Alors même si l'essentiel de nos projets concerne la restauration des églises, en réalité on a tout autre type de patrimoine et je pense à deux cas en particulier dans les Ardennes, le château de Sedan qui fête en plus cette année ses 600 ans et qui a été l'année dernière élu monument préféré des Français d'une part et d'autre part à Charleville-Mézières la restauration de marionnettes qui auront lieu cette année et voilà les marionnettes qu'est-ce qui est le plus emblématique avec Rimbaud à Charleville-Mézières.
Pour les Ardennes, vous n'avez pas tous les chiffres en tête hein, mais ça correspond quand même à un avis investissement assez lourd. La Fondation du patrimoine donne une aide substantielle pour ces chantiers.
Oui, exactement. On aide à peu près à hauteur de 3 à 4% tous les dossiers qui arrivent à un certain seuil de dons par rapport au montant de travaux. Et ce qui fait que on apporte à peu près, alors là, vraiment sur la Champagne-Ardenne, j'ai pas les chiffres pour les Ardennes, on a apporté 1,5 million d'euros en plus des dons qui ont été faits par les habitants et les entreprises.
Mais au-delà des montants, c'est aussi le caractère officiel de votre fondation. Peut-être vous êtes un réceptacle. J'allais dire, c'est le fait que vous participiez à l'opération doit aussi entraîner autour de vous des partenaires et puis d'autres personnes, d'autres collectivités.
Effectivement, on a, la Fondation du patrimoine a un rôle fédérateur, aujourd'hui connu et reconnu nationalement. Alors grâce en grande partie à Stéphane Bern qui a permis de mettre à la Fondation un coup de projecteur assez phénoménal sur nos missions. Et où nous allions toutes les forces vives en fait, des territoires, que ce soit les élus, les habitants, les entreprises, au service du patrimoine.
Bernard de Lauriston, vous avez dit à les églises. Mais vous avez dit pas que, puisque vous avez pris un château et des marionnettes, mais il y a même aussi un autre type de patrimoine. Je crois que du côté de Chalon-sur-Vienne, c'est tout à fait différent.
Exactement. Depuis quelques années, la Fondation du patrimoine a décidé de mettre un accent tout particulier sur le patrimoine naturel et la biodiversité. Et l'année dernière, nous avons lancé la première opération de mécénat sur un espace naturel, à savoir la sablière de Chalon-sur-Vienne, de Murphy et de Chenet, pour lesquelles nous expérimentons vraiment cette collecte en faveur du patrimoine naturel qui est vraiment inédite dans l'histoire de la Champagne-Ardenne.
Et du côté de FIM, c'est encore autre chose.
Et de FIM, c'est encore autre chose, puisque cette fois-ci, nous accompagnons le maire sur les anciens remparts et l'ancienne échauguette de FIM, valeur ô combien symbolique de la commune, et à tel point qu'il y a même une revue locale qui s'appelle l'échauguette, en mémoire de ces remparts-là.
De ces remparts de FIM. Pierre Possémé, à la tête de cette fondation, on connaît l'ancien chef d'entreprise, mais qui l'est toujours, parce que on ne quitte pas ses références. Vous aimez le bâtiment, bien entendu, la construction, mais vous vous êtes ouvert dans cette fondation, comme vient de le dire Bernard de Lauriston, à d'autres types de patrimoine. On vient de citer la sablière, les remparts. Vous, ça vous a ouvert, vous étiez au courant de tout ça, mais c'est autre chose aussi ce que vous faisiez avec le bâtiment associé. Hein.
Oui, mais je pense que le patrimoine, c'est beaucoup plus large. Quand on s'intéresse aux tapisseries de Saint-Rémy, par exemple, quand on sauve des anciens ouvrages littéraires, ça fait partie aussi de notre mission. Le patrimoine, il n'est pas que bâti, il est sur tout ce qui nous environne. Et je pense qu'il y a un sujet qui nous préoccupe énormément aujourd'hui à la Fondation, mais là, c'est même au niveau national, c'est le problème de sécurité, de mise en sécurité de nos monuments. Je veux dire, quand on voit des églises brûlées, quand on voit des clochers tomber, quand on voit des voûtes s'écrouler à cause des problèmes climatiques, vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup du problème climat, mais le problème climat, il pose des problèmes dans les sols. C'est vrai qu'il pleut beaucoup cet hiver, mais les sols argileux ont souffert de grandes sécheresses. Et quand vous avez des voûtes qui s'écroulent, parce qu'on n'a pas suffisamment regardé ces problèmes-là, je veux dire qu'il faut aujourd'hui mesurer tous les monuments dans notre région, voir les fissures nouvelles qui apparaissent et de voir ce qu'on peut faire assez rapidement pour éviter de l'écroulement. Et puis, il y a des problèmes d'installation électrique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de nos monuments ne sont pas assez vérifiés en matière d'électricité. Vous savez, quand vous avez une entreprise, vous êtes obligé tous les ans de faire venir un bureau de contrôle. Il y a une obligation de résultat, c'est-à-dire de faire les travaux derrière pour se mettre en sécurité. Et nos églises ont besoin aujourd'hui, je pense qu'il faut obliger nos mairies. Vous savez, vaut mieux dépenser 1000 ou 2000 euros pour en faire un bilan des monuments en matière de sécurité électrique plutôt que de voir un ouvrage détruit et mettre derrière 5-10 millions d'euros pour le reconstruire. Vous voyez, c'est à l'échelle de la reconstruction, je pense que ça vaut le coup de mettre un peu d'argent en prévention et de ne pas faire n'importe quoi, parce que ces anciens ouvrages, le bois souvent est très sec, et quand le feu prend, c'est très difficile d'arrêter un incendie, c'est difficile d'arrêter une voûte de s'écrouler. Voilà, donc les paratonnerres devraient tous être vérifiés une fois par an, et également les systèmes électriques dans les églises. Donc ça, c'est un sujet important. important pour l'État.
Bernard de Lauriston, vous êtes là avec Pierre Possemé. Évidemment, il y a toute une équipe et il y a forcément aussi des bénévoles. Vous renforcez ces bénévoles en 2023, 2024 maintenant?
Dès la fin de l'année dernière et début de cette année, on a déjà 5-6 nouvelles recrues même en Champagne-Ardenne et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On est toujours effectivement en recherche de bénévoles qui ont un peu de temps à consacrer à la Fondation et qui ont envie d'œuvrer pour elle.
Alors il faut dire, Pierre Possemé, qu'il faut quand même peut-être que ce soit des bénévoles qui soient quand même déjà un peu impliqués, qui aiment le patrimoine, qui ont eu des responsabilités, soit dans une entreprise, soit dans le bâtiment, soit en tant que maire de commune. Ça, vous savez faire, il faut un carnet d'adresse pour ça.
Oui, mais ce qui est important, c'est d'avoir des gens surtout passionnés, qui ont envie de passer du temps et qui aiment notre patrimoine. Nous, on aime bien, c'est la diversité dans ce qu'on a comme bénévoles, c'est qu'on a la chance d'avoir une grande diversité de nos bénévoles. Ça donne la diversité permet d'avoir des acquis en interne et de pouvoir être complémentaires. Et je crois que pour le patrimoine, on a besoin de cette grande complémentarité. Moi, je suis très content de voir nos nombres de bénévoles monter. On a besoin d'amplifier aussi, de trouver un peu plus d'âmes, de femmes, parce qu'on nous reproche d'avoir un peu trop de masculins dans notre fondation, mais je pense qu'on commence à en avoir. On a 3 nouvelles femmes qui nous ont rejoints, donc il y a un bon espoir d'arriver à un équilibre homme-femme dans nos bénévoles à la fondation, mais on a vraiment besoin d'eux. C'est par le bénévolat qu'on peut réussir ce que nous faisons parce que nous avons très peu de charges de fonctionnement et c'est ce qui fait que quand on nous donne un euro, il sert réellement pour le patrimoine.
Merci à Pierre Possemé et Bernard de Lauriston de la Fondation du patrimoine d'avoir été avec nous sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine régional ce mardi par une dernière découverte, le salon du petit format duo, organisé par l'association chalonnaise Art Vivant, revient pour sa seconde édition. Ce salon très spécifique proposera du 17 mars au 1er avril, au prieuré de Vinay à Châlons-en-Champagne, différentes œuvres dont la peinture acrylique, les sculptures, photos, céramiques et autres objets. Pour nous en parler, sa vice-présidente et chargée de communication, Monique Grandjean et Florence Noël, avec l'ami Christopher.
Bonjour Monique Grandjean.
Bonjour.
Bonjour Florence.
Bonjour Christopher.
Merci d'être avec nous pour parler à la fois de cette belle association qu'on parle tous les ans sur les ondes de RCF, mais c'est toujours l'occasion chaque année de la présenter grâce à un événement qui aura lieu dans les prochains jours. Cette deuxième édition du Salon du Petit Format Duo qui se tiendra du 17 mars au 1er avril. On en parlera dans quelques minutes, c'est promis. Dans un premier temps, on va peut-être parler un petit peu de l'association Art Vivant de Châlons-en-Champagne, un petit pic de rappel pour nos auditeurs. Monique Grandjean a rappelé un petit peu son histoire, parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, l'association.
Effectivement, elle ne date pas d'aujourd'hui. Art Vivant a été créé en 1943. Il y a plusieurs fondateurs, donc je peux les citer. Monsieur Bruyère, maire de Châlons. Monsieur Raoul Sourin, Monsieur Vandel.
La liste est longue.
Voilà, la liste est longue. Alors, à la base, cette association, c'était pas uniquement une association dédiée à la peinture. Elle était pluriculturelle. Donc, il y avait quand même de la peinture, de la poésie, du théâtre, de la musique.
Oui.
Littérature et architecture. C'était vraiment très, très varié.
Oui.
Et la pérennité de cette association, effectivement, elle est conservée et solide. Il y a eu 5 présidents. Il y a eu M. Raoul Sourin, M. André Ducigne, M. Yannick Varlet, M. Daniel Jacquin, hélas, qui est décédé également. Et ensuite, M. Yannick Varlet a repris la présidence.
Donc 5 présidents depuis 1943, avec beaucoup d'activités auparavant. Toujours autant d'activités aujourd'hui ?
Un petit peu moins.
Un petit peu moins.
L'association, alors on a des activités, on a de la peinture. Dans les cours, les élèves ne travaillent qu'à l'acrylique. Par contre, au niveau des associations, des expositions, pardon, on accepte l'aquarelle, le fusain, la peinture acrylique, la peinture à l'huile, la photo.
Ça fait encore beaucoup d'activités.
On a de la sculpture. Mmh. On a aussi quelque chose qui est nouveau quand même, la mosaïque.
Alors vous êtes combien pour gérer autant d'activités? Alors même s'il y en a un petit peu moins que lors de sa création, il y en a encore beaucoup d'activités. Il faut être nombreux ces activités.
Oui, alors on est 14 au bureau.
14 au bureau.
14 au bureau. Donc alors le président qui lui-même donne des cours. On a donc une vice-présidente, une trésorière, une secrétaire.
Une chargée de communication.
Une chargée de communication.
Qui est avec nous, Florence Noël.
Oui. Et puis les autres ont des rôles et viennent nous aider à installer les expositions, par exemple distribuer les affiches.
Et puis d'autres bénévoles aussi qui nous accompagnent pour les événements.
D'autres bénévoles qui viennent nous aider à installer les expositions. Oui, tout à fait.
Parlons désormais de ce salon. Deuxième édition du salon Duo. Est-ce que on peut d'abord préciser pourquoi Duo ?
Alors, dans un premier temps, j'étais à la recherche d'innovation avec des critères particuliers. J'avais fait plusieurs expositions et j'avais, dans un site exceptionnel, j'avais vu une exposition petit format.
Petit format.
Petit format et du même format. Et ça m'avait vraiment enchantée. J'avais trouvé ça très chic, très épuré. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire pareil à l'abbaye, enfin, au priori de Vinay ?
Sans pour autant copier, mais s'inspirer.
Ça n'était pas, voilà, sans pour autant copier, mais s'inspirer de cette façon de présenter des tableaux et ne pas en mettre qu'un. Parce que je trouvais l'histoire de le fait d'en avoir deux, on voit déjà, on apprécie mieux déjà la peinture en voyant plusieurs œuvres de l'artiste. C'était aussi un des critères. Et j'avais trouvé ça très, très intéressant.
Florence Noël, deuxième édition de ce salon. Du petit format, je le précise bien, salon du petit format Duo, qui aura lieu courant mars, c'est bien ça ?
Qui aura lieu du 17 mars au 1er avril.
Donc on le disait au prioré de Vinay à Châlons-en-Champagne. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu pour l'auditeur, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette nouvelle édition ?
Eh bien, on va y retrouver une vingtaine de peintres qui ont peint deux tableaux. Les tableaux doivent faire 40 sur 40.
D'accord.
Et il doit y avoir un lien entre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas peindre une fleur et puis un peu plus, le deuxième tableau, un paysage. Il faut qu'il y ait une cohérence. Entre les deux tableaux.
On le disait, Florence Noël, donc 20 peintres vont... 28 peintres qui vont exposer. Donc on va retrouver 28 tableaux.
Il y a 22 peintres et le reste et les autres artistes sont des sculpteurs.
Des sculpteurs,
voilà.
D'accord.
Il y a des photographes, de la sculpture, de la photographie et de la céramique.
On retrouve les différentes activités de l'association dans cette édition. Parfait. Plusieurs semaines, deux semaines du côté du prioré de Vinay. On commence à se préparer tout doucement sur l'exposition il faut prendre le temps quand même de faire les choses correctement.
Tout à fait, oui, mais pas tout doucement. On est en plein dedans.
Vous êtes déjà en plein dedans.
Tout est organisé, la communication, les affiches, les invitations. Maintenant, je pense que Art Vivant, avec 40 ans d'expérience, sait comment s'organiser. Tout est prêt.
Tout est prêt. Ça y est, il n'y a plus qu'à accueillir les peintres.
Il n'y a plus qu'à accueillir. Voilà.
Donc, qui dit deuxième édition, dit première édition. Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur la première ? Comment ça s'est passé en termes de fréquentation, de participants ?
Alors, justement, ça a été très, très enrichissant.
Oui.
On a eu une première exposition qui a énormément plu. Et justement, le fait que ce soit des petits formats, c'était vraiment... les gens ont été émerveillés. Et ils nous ont surtout dit, c'est quand même pas mal, parce que pour des gens qui ont le coup de cœur pour une peinture ou une autre œuvre, que ce soit sculpture ou mosaïque, ils peuvent se permettre d'acheter des petits formats. Un grand format, c'est pas toujours évident.
Donc vous êtes quand même appuyé sur des retours du public.
Tout à fait, très intéressant. Au niveau des remarques, au niveau de la peinture et des œuvres qui étaient exposées, c'était un travail, un très beau travail. Rien n'a été négligé au niveau de la peinture et les visiteurs ont été enchantés.
Quel public attendez-vous de cet événement ?
J'espère qu'on aura un public assez nombreux, j'espère.
Oui. Ah ben ça, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà. On est là aujourd'hui pour
assez
ça.
Assez nombreux et surtout passionnés et surtout intéressés par le fait de... On aime bien quand ils nous interrogent sur la peinture. C'est pas toujours facile de définir en fait l'interprétation de notre peinture.
Oui.
Parce que chaque personne ressent différemment... J'ai un ressenti complètement.
L'émotion, oui,
voilà, tout à fait,
sa propre émotion.
Tout à fait.
Et donc ça, vous l'avez ce retour-là régulièrement du public.
Oui.
Donc on l'espère encore.
On l'espère.
Pas mal d'expositions au final. On peut le dire. J'imagine que pour vous, c'est quand même une fierté d'organiser un tel événement, Florence Noël.
Tout à fait. Moi, c'est la première fois que je prends ce salon en main. Bon, je ferai aussi certainement les autres, mais c'est très intéressant parce que déjà ça. Je contacte beaucoup de personnes,
C'est vraiment intéressant, ça m'intéresse. Et puis ce que j'aimerais faire, c'est aller plus loin dans la communication, c'est-à-dire ouvrir des portes un petit peu difficiles à ouvrir, en parler plus sur des radios je dirais pas national, mais régional. Et
oui, sortir un petit peu de l'aspect local.
Voilà, voilà.
Qu'on peut retrouver l'association Art Vivant, avec son nom intégral, sur Instagram et Facebook. Merci infiniment, mesdames. Monique Grandjean, vice-présidente de l'association Art Vivant, et Florence Noël, chargée de communication à cette association chalonnaise, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le studio de RCF pour nous présenter votre association. Et puis cet événement, cette deuxième édition du salon du petit format duo de l'association Art Vivant. Merci mesdames.
Eh ben merci à vous.
À très bientôt.
Effectivement, merci à vous aussi Christopher. À très bientôt. Le salon du petit format duo organisé par l'association chalonnaise Art Vivant se tiendra le 17 mars jusqu'au 1er avril de 14h à 18h au prieuré de Vinay à Châlons-en-Champagne. L'accès est libre. Comme écoutez ce magazine, c'est libre et c'est demain à 18h10 que l'on se retrouve pour un nouveau magazine régional. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.